Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Ça résonne. Hein. Je ne viens pas très très souvent dans cet endroit. C'est toujours avec un petit peu une appréhension, forcément, hein, qu'on vient pour apporter quelque chose. Alors, vous avez souvent des repas qui sont très riches, hein, qui peuvent être parfois trop riches, je ne sais pas. En tout cas, ce matin, soyez rassurés, vous aurez un petit repas. En tout cas, moi, je me réjouis de vous voir tous ici. Hein, c'est toujours une joie pour moi d'être au milieu de mes frères et de mes sœurs pour louer le nom de Jésus, hein, louer sa gloire. Et ce matin, on a chanté différents chants. Il y a un chant qui a retenu mon attention parce qu'en fait, c'est un petit peu le thème de ce que je voudrais vous apporter ce matin. C'est « Que ton règne vienne ». Viens Jésus, règne en moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce refrain. Que ton règne vienne, viens Jésus, règne en moi. Et c'est le thème du message ce matin. Quand on partage la Sainte Cène, c'est aussi un moment pour moi spécial, parce qu'on est tous ensemble, réunis pour nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Et quand on lit les textes, souvent, il nous est dit de partager ce repas jusqu'à ce qu'il revienne. Jésus reviendra. Et je ne sais pas dans quelle disposition d'esprit vous êtes. En tout cas, moi, je suis dans l'attente. Dans l'attente du retour de Jésus. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où on est dans l'attente. Moi, j'ai été dans l'attente dans ma jeunesse, quand j'ai connu Jeannette. Elle était en Angleterre, moi, j'étais en France. On se voyait une fois tous les deux mois à peu près. Donc, j'étais dans l'attente, vraiment de revoir celle que j'aimais. Et je pense qu'avec Jésus, c'est aussi la même chose. Jésus est là dans nos vies, c'est sûr, mais nous sommes dans l'attente. Et je voudrais vous partager un texte dans Hébreux 9. 9, chapitre 9. Hébreux 9, à partir du verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant, pour nous, devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Et dans ce texte, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et dans ce dernier verset, à ceux qui l'attendent pour le salut. Ça me fait penser à... Peut-être certains d'entre vous ont connu cet homme qui s'appelait Aldo Benzi, il est décédé aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce que quand il était sur la ville de Rennes, il avait l'habitude d'aller afficher... un petit peu partout, des grands panneaux, hein, c'était bien visible, « Jésus revient ». Et ça a duré des années, le temps qu'il a été là. Et dans notre église, à la Mobilet, il y avait Daniel Boulet qui l'aidait régulièrement, tous les matins de bonne heure, il se levait, et hop, ils allaient afficher, et on voyait tous ces panneaux, « Jésus revient ». Et Aldo Benzi, il était vraiment dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Bien sûr, Jésus est là aujourd'hui, il est dans nos vies, il œuvre, mais nous sommes aussi dans l'attente de son retour. Et dans ce texte que je viens de lire, il y a trois étapes. Hein. Il est venu une première fois sur terre, hein, et nous connaissons l'histoire de Jésus, hein, sa venue sur terre, comment il est venu, comment il a grandi, comment il a vécu parmi les hommes, Et pourquoi il est venu? Il est venu pour mourir pour nos péchés, comme il est dit ici. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, il comparaît devant la face de Dieu. On va relire. Mais il est entré dans le ciel même, après sa mort, il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est dit dans d'autres passages, il est notre avocat auprès du Père. Il est celui qui est là pour défendre ses enfants. Pour défendre ses enfants tout simplement. Et c'est un moment... On nous parle du souverain sacrificateur qui, dans l'Ancien Testament, allait porter le sang des boucs dans le lieu très saint, une fois par an. C'était quelque chose qui était fait une fois par an. Et donc, il rentrait dans le Saint des Saints. Le peuple attendait, dans la tristesse, parce qu'il ne savait pas si vraiment l'offrande qui allait être faite allait être agréée par Dieu. Et ensuite, le sacrificateur ressortait une fois que l'offrande était agréée. Et là, le peuple explosait de joie. Le peuple était vraiment dans l'allégresse. Et je pense que pour nous, quand il reviendra la deuxième fois, quand Jésus reviendra, ce sera vraiment un moment d'allégresse, un moment merveilleux où tous ceux qui lui appartiennent pourront s'assembler pour faire ce qu'on a fait un petit peu ce matin, hein, le louer, l'adorer, le prier, vraiment chanter ses louanges. Et Jésus lui-même a appris à ses disciples une prière dans Matthieu 6. Vous connaissez cette prière. Et c'est Jésus qui apprend à ses disciples à prier. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Puis après, voilà, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne soit sanctifié, que ton règne vienne. Jésus lui-même a dit à ses disciples, hein, dans la façon de prier, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et on connaît la suite de cette prière. Que ton règne vienne. Dans Romains 8 et au verset 24, dans Romains 8 et au verset 24, il est dit ceci, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, nous vivons dans un temps où nous pouvons avoir des épreuves, nous pouvons être bouleversés dans nos vies, mais c'est aussi le moyen que le Seigneur utilise pour nous sanctifier. Et ce temps va passer, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous avons la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce qu'il a fait pour nous, et nous sommes sauvés. C'est vrai que pour ce temps, Jésus ne nous laisse pas orphelins. Jusqu'à ce qu'il revienne, il ne nous laisse pas tout seul. Et il nous a envoyé un consolateur, qui est l'esprit de vérité qui vient du Père. Et dans Jean 15, verset 26, ça fait quelques versets, mais je pense que c'est important. Jean 15 et au verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jésus est devant le Père, il comparaît pour nous devant le Père, mais il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé un Consolateur. Et le Consolateur, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons dire Jésus, tout simplement. Jésus qui est notre libérateur, Moi, la chanter ce matin. Maintenant, c'est à nous d'entretenir la flamme du Saint-Esprit. C'est vrai qu'un enfant, quand il naît, on lui donne à manger, forcément, puisqu'il ne peut pas se débrouiller tout seul. Et puis, au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à apprendre à manger. Et ensuite, il se débrouille tout seul. Et pour nous, c'est la même chose. C'est vrai que dimanche dernier, on a eu des baptêmes. Des trois personnes qui se sont avancées devant, qui ont manifesté vraiment leur attachement à Dieu. Et c'est vrai que quand on se convertit, je pense que le Seigneur nous donne le Saint-Esprit et il nous donne une certaine dose d'huile pour que ce Saint-Esprit vive et soit flamboyant. Et petit à petit, si on n'entretient pas cette flamme, la flamme va s'éteindre. C'est ensuite à nous d'apprendre à manger et à faire en sorte que ce Saint-Esprit puisse être vivant en nous. Et on a la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25 qui illustre très très bien cet état de fait. Dans Matthieu 25, on va lire cette parabole. Alors, donc, je vais le lire. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Cette parabole illustre parfaitement le fait que là, il y avait 10 vierges, 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Remarquez qu'au départ, toutes les lampes brillaient, mais des 5 lampes s'éteignirent, alors que les autres ont pu avoir de l'huile pour ranimer leurs lampes et aller à la rencontre de l'époux. Dans nos vies, c'est la même chose. Il faut aussi que nous prenions le temps de nourrir la lampe du Saint-Esprit. On a beaucoup de messages dimanche après dimanche qui nous parlent de ça et c'est vrai qu'au début de l'année, le 4 janvier, il y a Robert qui a parlé d'un message sur demeurer dans l'amour de Dieu, demeurer en Christ. Et c'est vrai qu'il faut que vraiment on puisse demeurer dans sa parole. Et c'est le verset clé donc, qu'il avait donné, c'était Jean 8, et verset 31, Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Nous devons vraiment nous attacher à prendre du temps avec le Seigneur pour lire sa parole. Vous savez, moi, là où je prends le plus de temps, c'est un petit peu bête, mais c'est quand j'ai à vous parler, que je suis obligé vraiment de passer du temps dans les Écritures pour voir un petit peu plus loin. C'est là que je prends le plus de temps. Et c'est dommage, on devrait prendre du temps régulièrement, tous les jours. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur Jésus reviendra. Et Matthieu 24 nous parle de cela. Du retour de Jésus-Christ. Matthieu 24, c'est là. Oui. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On est prévenu. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça peut être tout à l'heure, ça peut être demain, ça peut être beaucoup plus tard. Ce ne sera peut-être pas quand on sera ici sur terre, mais le Seigneur reviendra, c'est une certitude. Et c'est assez étonnant pour ceux qui connaîtront le retour du Seigneur durant leur vie, ils verront disparaître des personnes. Comme il est dit ici, de deux femmes qui sont à la meule, l'une sera emportée, l'autre restera. On peut imaginer un petit peu le monde si tous ceux qui connaissent vraiment le Seigneur sont enlevés. Et comment les choses pourraient... ça pourrait poser de gros problèmes. Moi, je pense souvent aux gens qui sont dans les avions. S'il y a deux chrétiens qui pilotent l'avion, ça se passera très mal. Mais bon, le Seigneur connaît toutes choses. En attendant, réjouissons-nous de ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Et une des choses qu'il a mis dans nos cœurs, c'est l'assurance de la vie éternelle. Vous connaissez bien Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On peut aussi lire dans 1 Jean 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quelle belle assurance. Et c'est des choses qui nous sont déposées dans notre cœur et qui nous donnent de la joie. L'autre joie aussi, pour moi en tout cas, c'est d'être sûr de ne jamais être séparé de Dieu. Et Romains nous en parle. Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous assure dans ces choses, que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu, quelles que soient les circonstances. Dieu est là. Je suis réjoui aussi parce que Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Et dans Éphésiens 1, versets 13 à 14, il nous est dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Seigneur Jésus nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a scellés avec son Saint-Esprit qui a été promis. Et c'est un gage de notre héritage. Vous savez, notre héritage, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas bien. On ne sait pas ce que Dieu réserve pour nous. Et pourtant, si nous savions ce que Dieu nous réservait, les choses de ce monde nous sembleraient vraiment pâles. Dieu peut nous révéler ces choses quand vraiment nous nous approchons de lui. Et c'est pour ça que ce matin, là, on a chanté des louanges. Et pour moi, c'est les prémices de ce que Dieu nous réserve quand on sera avec lui. La louange à la gloire de Dieu. Dans 1 Pierre 3, 9, je vais lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut va être révélé dans les derniers temps. Et ce sera quelque chose de... Il nous est parlé là aussi d'un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, ni se souiller, et qui est réservé, qui nous est réservé dans les cieux. Dans Philippiens 3, 20 à 21, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Là aussi, il nous est parlé de la cité qui nous est réservée dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, nous sommes ici sur terre. Le Seigneur nous accompagne tous les jours, mais nous sommes toujours dans le combat contre le péché, le combat contre les tentations, hein, tout ce qui nous entoure. Hein, il suffit d'ouvrir les informations pour voir que vraiment dans ce monde, beaucoup de choses tournent vraiment mal et que ce monde est sous l'emprise du malin. Mais les choses un jour changeront. Nous n'aurons plus à combattre. Le Seigneur sera là pour transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et pour conclure, dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7, il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Amen. Quel beau texte. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et c'est vrai qu'on peut vraiment se réjouir dans notre Dieu. Et si nous demeurons vraiment dans sa parole, comme on l'a vu un peu plus tôt, il gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour toutes ces promesses et pour tout ce qu'il peut faire dans nos vies. Je vais prier, puis on va s'arrêter là. Oui, Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes jusqu'à ton retour, Seigneur. C'est vrai, nous ne savons quand tu reviendras, mais nous avons la foi que tu es celui qui a changé nos vies, Seigneur. Nous savons que tu as changé nos vies. Tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, tu as déposé dans nos cœurs vraiment l'assurance de la vie éternelle. Tu nous as vraiment gardés, Seigneur. Et Seigneur, je me réjouis de savoir qu'un jour, nous te verrons face à face et que nous serons tous ensemble pour te louer, pour te louer, pour t'adorer, pour vraiment exalter ton nom, parce que tu es celui qui tient nos vies dans ta main, tu es celui qui tient le monde dans ta main, Seigneur. Et vraiment, nous voulons t'adorer parce que tu es notre Dieu. Nous voulons t'adorer parce que tu es celui qui nous aime, Seigneur, est actuellement devant le Père, pour, qui comparaît devant le Père pour nous-mêmes, Seigneur, pour nos fautes, Seigneur, pour les moments où on trébuche, Seigneur, tu es toujours là, Seigneur, pour nous défendre, Seigneur. Oui, Père, merci pour ton amour pour nous. Et je te remets tous mes frères et sœurs, Seigneur, pour que jour après jour, Seigneur, ils soient dans cette espérance, qu'ils puissent garder ce qu'ils ont déposé dans leur, ce que tu as déposé dans leur cœur, Seigneur. Que vraiment tu puisses nous faire vivre, Seigneur, avec la possibilité, Seigneur, d'entrevoir l'héritage que tu as gardé pour nous dans les cieux, Seigneur. Oui, Père, merci encore pour ces instants que tu nous as donnés pour te louer, pour t'adorer, au travers des chants, des louanges, au travers de la Sainte Seine, Seigneur. Et merci encore, Seigneur, pour ta parole, qui chaque jour est une lumière sur notre sentier et peut nous guider, Seigneur. Et merci, Père. Amen.